Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. Épisode numéro 160 déjà, c'est cool. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2026. Je suis Horacio González et j'ai avec moi trois personnes merveilleuses. En bas, derrière ces tasses Guinness, qui peut bien se cacher? C'est le côté international, c'est Erwan. Bonjour Erwan.
Bonjour à tous.
La jolie tasse avec ces bestioles que j'arrive pas à identifier, ça semble un petit renard ou un truc comme ça. Ça doit être Yannick. Bonjour Yannick.
Bonjour à tous, c'est un raton laveur.
C'est un raton laveur, merci. Et derrière des livres, ça fait quelque chose de la culture et les super-pouvoirs de l'IA et un Raspberry Pi, ça doit bien être Lorenzo. Coucou Lorenzo, tu es là?
Bonjour tout le monde.
On va commencer par un petit tour de table. Et donc, on va faire dans les sens inverse. Lorenzo, Graven, comme beaucoup de monde te connaît, tu peux nous dire qui tu es?
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Graven, j'ai 27 ans, je suis créateur de contenu dans le milieu du développement informatique depuis 2015. Également, je donne cours à Sup de Vinci et je suis également freelance en développement mobile. Voilà, c'est ma spécialité. Et à côté, je fais d'autres activités, notamment je suis animateur enfant et jongleur. Donc voilà, beaucoup de choses. On va dire.
Et pour info, il y a quelqu'un chez Clever, quand j'ai dit que Graven allait être notre invité aujourd'hui, il a dit « Waouh, tu sais que moi j'ai appris le développement quand j'étais au collège en regardant des vidéos de Python et Java de Graven. » Donc, ça commence à faire un moment que tu fais tout ça en plus.
Oui, ça se voit, non?
je sais pas. Bon, Yannick, et toi, qui tu es? Tu nous rappelles?
Moi, je suis ingénieur R&D à Clever. Je fais beaucoup de Rust, beaucoup de Rust. Et sinon, j'aime bien expliquer des choses sur mon blog. Donc, également, je fais pas mal de choses dans ma vie et c'est très intéressant.
Nickel, tu nous raconteras certains de tes side projects tout à l'heure. Et Erwan, tu nous rappelles qui tu es? Tu es un des habitués de Massy quand même.
Ouais, maintenant, ça commence à faire, mais j'avoue que c'est toujours un plaisir d'être là. Moi, c'est Erwan et je travaille chez Clever en charge de la croissance internationale. Donc, je suis le gentil petit hippie de Clever qui se balade de pays en pays pour faire rayonner la bonne tech française qu'on a développée.
Nickel. Bon, je pense qu'on a, comme d'habitude, énormément de sujets à vous parler, mais quitte à voir Graven avec nous, moi, j'avais envie qu'il commence à nous raconter parce que vous connaissez sa facette youtubeur, mais est-ce que vous savez aussi qu'il est un organisateur de conférences techniques? Tu nous racontes un peu plus?
Oui, alors du coup, moi, depuis 2015, comme je disais, j'ai fait des vidéos, principalement des tutos. Et en 2020, il y avait un petit événement dont on n'a pas trop parlé, une sorte de virus un petit peu. Et donc, j'étais un peu frustré le fait qu'il n'y ait pas d'événement et de conférences, de choses qui se passent à ce moment-là. Tout était fermé. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais pourquoi pas créer ma propre conf. Et au début, c'était en distanciel. Donc, ça s'appelle l'AsynConf. C'était en 2020. Et donc, les trois premières années, j'ai fait ça en distanciel. Donc, 2020, 2021, 2022, c'était vraiment full remote avec des intervenants de différents profils et différents horizons qui sont venus présenter des sujets, pas que du dev d'ailleurs, de la cyber, du DevOps, du cloud, avec un dénommé Horacio, il me semble.
C'est incroyable parce que il y avait énormément de monde connecté. Je me souviens que quand j'ai vu les chiffres, j'ai dit « Oh la vache !» En 2020, c'était la folie, la 5e conf.
C'était vraiment le prime, surtout pour tous les sujets tech. Je me rappelle pendant le Covid, j'avais fait un live par jour pendant 30 jours à chaque fois avec un challenge, les gens devaient faire chez eux et tout. Et je me rappelle, les stats étaient démesurés sur cette époque. Donc, j'ai envie de dire vivement le prochain virus. Non, c'est faux. J'ai touché du bois. Non, pour revenir à la 5conf, du coup, à partir de 2023, j'ai fait la première édition en présentiel. Il y a eu un trou pendant 3 ans et là je reviens en 2026 avec la nouvelle édition. Donc ça aura lieu à Paris La Défense le samedi 27 juin. Pourquoi j'ai pas fait pendant 3 ans, c'est parce que je voulais pas, tu vois, rétrograder la qualité. 2023, c'était à Paris-Saclay, donc c'était la Banque Populaire qui avait soutenu l'événement. Et ils m'avaient prêté le loco pour que je puisse faire mon événement pendant 2 jours, mais je voulais pas faire un truc moins bien, et donc j'ai attendu pour pouvoir refaire cette édition dans des conditions encore meilleures, avec plus de moyens notamment, parce que maintenant j'ai créé une boîte dédiée à l'organisation d'événements. Avant, je payais ça avec mes fonds propres, donc
c'est oui.
C'est pas stratégiquement des gros montagnes, ça aide. Donc du coup, dans cette édition, il va y avoir des conférences, des partenaires, dont Clever Cloud. Également, il y aura un musée de l'informatique par l'association Mémoire Morte qui va venir exposer en présentiel. Il y aura aussi deux CTF qui seront proposés et des différentes animations, différents stands, etc. Donc en fait, contrairement à, tu vois, il y a beaucoup de salons qui se passent. Moi, je suis allé récemment à Devox, que j'ai beaucoup apprécié. C'est là où on s'est revus. Il y a beaucoup de salons hors tech qui sont vraiment dédiés business marketing, où on n'a pas forcément l'occasion de parler et de rentrer en détail dans les sujets tech. Donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi cette frustration qui m'a donné envie de créer mon événement. C'est pour aller rentrer un peu plus en profondeur et pas trop rester en surface sur le produit, mais aussi sur des nouveaux frameworks, des nouvelles techno. Bon, là, il y a eu l'IA un peu partout. Hein, on l'a vu dans les derniers salons, c'était l'IA, IA, IA. Donc, sur la 5-11, j'ai essayé de restreindre à, je crois qu'il y a que 4 ou 5 conférences IA sur les 25 pour pas non plus monopoliser le sujet et pas avoir des redites. Mais c'est vrai que les sujets évoluent et je pense que aujourd'hui les conférences, les événements comme ça, c'est le meilleur moyen déjà de réseauter, de trouver des nouveaux contenus et même de pouvoir faire un pont sur ce qui peut être fait dans quelques années. C'est pour ça que moi j'essaye de me projeter aussi horizon 4-5 ans pour voir ce qu'il est possible de faire.
Ah bah, moi, je pense aussi que justement, l'arrivée de la IA, ça donne, à mon sens, encore plus d'importance à ce type d'événements, à ces partages en direct. Et par contre, oui, là où je suis d'accord aussi, c'est la IA, c'est un outil, c'est pas, il y a plein de sujets qu'on peut parler et la IA doit faire partie de entre guillemets, tous les sujets, mais c'est dommage que le sujet principal soit l'IA. Plus le temps passe, plus on peut parler de plein de sujets dans lesquels l'IA c'est un composant parmi d'autres.
Et donc, on a dit le mot IA, je pense que les gens sont partis du talk. Il faut qu'ils reviennent. Revenez.
Ah non!
Non, mais en vrai, t'as raison.
On parlait de IA pour des devs, on racontait beaucoup comment on l'utilise, mais toujours dans l'idée de. C'est un outil. Derrière, il y a des personnes qui l'utilisent, il y a des connaissances, il y a des choses qui sont faites.
Non, c'est surtout les termes... la notion d'IA, niveau bullshit, elle est vraiment trop présente. En mode, comment faire 10 000 euros avec l'IA, machin, on voit ça partout. Alors qu'il y a tellement plus de sujets IA pour entrer en profondeur. Et en fait, au lieu de parler d'IA, il devrait y avoir plus de conférences, de talks, de vidéos sur le machine learning, le fonctionnement profond de comment ça marche derrière, plutôt que de rester en surface sur des choses en fait qui sont juste, c'est l'effet waouh, tu vois.
Ouais, mais ça, on a eu la même chose il y a 10 ans, 15 ans, quand la blockchain est arrivée, où tu avais je ne sais pas combien de trucs dédiés à la blockchain. La seule différence, c'est que, comme un peu la blockchain, tu me diras, mais ça s'est diffusé dans la société, c'est sorti du cercle d'ingénierie, de développeurs, ça a touché toutes les sphères, tous les métiers, ça c'est l'IA. La blockchain, on l'a vu arriver à peu près partout pareil, j'ai l'impression de voir les mêmes bullshit projets qui étaient bullshit token IA devenu token blockchain IA, enfin tu vois ce que je veux dire.
Parce que c'est les mêmes personnes qui se sont reconverties.
C'est exactement ça. Hein. Parce que même quand tu regardes les salons tech, moi j'ai fait beaucoup de salons tech, même depuis que j'ai commencé ma chaîne et tout, parce que j'ai été invité sur pas mal d'événements. Et effectivement, là on est sur depuis 2 ans sur les années de l'IA. Mais quand tu regardes 2020, 2021, 2022, tu avais beaucoup de blockchain, beaucoup de, tu sais, les projets des startups qui démarrent, etc. Je sais plus comment ça s'appelle ce terme-là. Bref, il y avait beaucoup aussi le sujet de la blockchain qui revenait. Aujourd'hui, on n'en entend pas autant parler qu'avant. En tout cas, ça c'est.
C'est peut-être là que pour moi, il y a une différence. Honnêtement, je pense que l'impact de la blockchain sur la société en général, c'est relativement limité ou peut-être à plus longtemps. Peut-être dans quelques années, on verra avoir plus de chances dans crypto-monnaie, etc. Par contre, l'IA, il a des impacts concrets et je pense qu'il y a moins. Honnêtement, je ne crois pas en ce instant que dans 2 ou 3 ans, ça sera une techno de plus qui est passée. Pour moi, c'est un changement durable dans plein de choses. C'est là que pour moi, ça fait la grosse différence. Ça change la façon de travailler, ça change la façon d'automatiser des choses, ça change la façon comme les entreprises créent de la valeur aussi. C'est pas...
Comme quand il y a eu la fibre un peu...
J'irais même plus loin que ça. Hein.
Moi, ça me rappelle à l'arrivée des smartphones. Je me souviens, je raconte souvent, j'étais un des premiers à vouloir un smartphone, les premiers Android, les HTC One. Et je me souviens qu'il y avait plein de potes informaticiens, même à l'époque, qui se moquaient de moi. Oh, ça te sert à quoi d'avoir Internet dans ta poche? C'est un truc, tu n'as pas besoin, machin, ça ne sert à rien, ça ne percera jamais, les gens ne vont pas vouloir investir dans un téléphone comme ça, en plus de forfait, machin. Et ça a littéralement changé la vie de tout le monde, au point que mes enfants qui sont nés après les smartphones, je pense qu'ils n'arrivent pas à conceptualiser qu'est-ce que c'était le monde avant que tout le monde ait Internet dans la poche. Et pour moi, c'est un changement de cet style-là beaucoup plus qu'un changement blockchain.
Il n'y a pas le même mécanisme que la blockchain. La blockchain, c'était un groupe de personnes qui avaient une idéologie qui était on ne veut pas que l'État puisse piquer notre argent, on construit une architecture au-dessus. Et après, il y a eu tout l'écosystème Web3 qui s'est construit par-dessus. Alors que l'IA, c'est littéralement géopolitique. C'est, t'as des milliards de milliards qui sont investis dans l'IA. À partir du moment où on a investi autant de pognon, il peut difficilement y avoir un vrai retour en arrière qui puisse se faire. Parce que les infrastructures ont été créées. Il y a vraiment du palpable. Le Web3, tout était virtuel. On change vraiment de...
Pour moi, en fait, on en est vraiment à une étape bien plus disruptive que ça avec l'IA, dans le sens où, pour moi, on en est arrivé au moment où on a inventé le moteur, si tu veux. Tu vois, en termes de technologie, d'évolution de l'humanité, tu vois, si on dézoome un peu, là, avec le moteur, on a transformé de l'énergie, peu importe ce qu'elle est, en action physique, tu vois, on a transformé de l'énergie en muscle. Ça a été une révolution industrielle, on a transformé de l'énergie en cerveau. Et cette énergie en cerveau, même si ça reste que des machines probabilistiques à l'heure actuelle, les LLM, et que ça génère les bons mots aux bons endroits parce que c'est attendu, moi, ma plus-value en tant que développeur, c'est pas de savoir taper un if-then case, tu vois. Ma plus-value, c'est dire c'est ça dont j'ai besoin, j'écris le plus vite que moi et mieux que moi. Et là, du coup, ça va plus vite. Là où la blockchain, ça a permis de transformer l'Internet de données en Internet de valeur, c'est-à-dire qu'avant, j'avais un fichier, je te le donnais, je gardais une copie. La blockchain, ça a permis de dire, tiens, je te donne un fichier et ce fichier, il est bien plus qu'à toi et il est plus à moi. Et c'est ça qui a changé avec la blockchain et c'est pour ça que ça s'est diffusé dans le commun des mortels, dans les moldus. Mais ça a mis du temps à se diffuser. L'IA, ça a touché tous les boulots. Mais genre, tous les boulots. Il n'y a pas un médecin maintenant qui n'utilise pas l'IA. J'écoutais des gens qui vont maintenant dans des rendez-vous professionnels questionner leur banquier avec Claude ou ChatGPT à la main pour les interroger directement. Ça arrivait maintenant à un niveau de la société où il y a, dans les années 2000, où tu disais à ta grand-mère, mais demande à Google et Google te dira la vérité. Là, c'est demande à ChatGPT ou demande à Claude, il te dira la vérité. Et c'est là où c'est génial sur l'IA, c'est que là, le monde est en train de changer. Et on est témoin de ça. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire.
Et on est quelque part au démarrage.
Et on arrive de moins en moins à se rappeler du monde d'avant. L'autre jour, j'ai tapé une recherche sur Google j'étais en train de me dire, attends, est-ce que je dois écrire une phrase ou est-ce que je dois écrire des mots-clés?
Mon
cerveau avait complètement
vrillé sur... C'est ce que Google a dit lors de Google I.O. il y a 10 jours. Maintenant, tu vas faire des prompts aussi sur Google. Parce que, basiquement, si j'ai bien compris, ils ont annoncé que la capacité de langage naturel sera incorporée dans la petite barre Google. Donc, tu vas faire des prompts plutôt que mettre des mots-clés, si j'ai bien compris.
Ouais, Gemini va devenir ton point d'entrée, quoi. Mais je te rejoins, Yannick, sur le fait qu'on oublie le monde d'avant, mais c'est surtout aussi valable, tu sais, quand on développe. Souviens-toi, à une époque où on devait faire rentrer tout dans notre calculatrice qui faisait que 64 kilobits de RAM. Tu vois, maintenant, je code des trucs sur Goldo, ils font 8 gigas, j'optimise rien, je m'en fous, j'ai de la RAM, enfin, tu vois ce que je veux dire. On en oublie, tu vois, tous ces concepts où il y a des ingénieurs à l'époque qui se sont torturés le cerveau pour arriver à faire des jeux qui tiennent sur des cartouches de NES ou whatever, quoi.
Et qui arrivaient à tenir du 60 FPS pour certains jeux.
Grave. Non, mais les ingénieries d'Algo et tout, je regardais récemment comment GTA 3, tu sais, il te donnait cette impression sur la PlayStation de seamless, tu vois, que tu te baladais de ville en ville sans problème et tout. Et les mecs te chargeaient en stream sur 32 mégabits de RAM, de la SDR RAM de la PlayStation 2, les éléments on the fly et les déchargeaient du truc. Ils ont eu des problèmes de fragmentation de RAM, ils avaient eu des problèmes où ça prenait trop de trucs. Enfin, les mecs ont dû faire purée de réflexion d'ingénierie pour arriver à faire tout tenir et que ça marche, quoi. Et...
Ah, ça me rappelle, donc un lien, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Ponce, c'est un dev qui fait aussi des streaming, et cette année, il a présenté dans plusieurs confs tech une analyse assez détaillée d'un jeu qu'à l'époque, j'ai trouvé mythique, où j'ai suivi Another World. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un jeu étrange avec des belles graphiques. À l'époque, c'était carrément intuitif niveau graphique et ça tournait dans des ordinateurs qui ont bien moins de puissance que votre smartwatch. Et il a décortiqué lors de la conf et lors aussi de plusieurs streams toutes les techniques qui étaient utilisées pour réussir à faire tourner Another World sur des plateformes qui n'étaient pas du tout, mais pas du tout fait pour. Et je vous laisse le lien parce que si vous aimez bah, comprendre des astuces qui ont été utilisées, là, vous savez de quoi creuser pendant des heures et des heures.
Ouais. On oublie tous ces besoins d'optimisation tellement on vit dans ce que j'appelle maintenant l'opulence de capacité, tu vois. Avant, tu devais tout faire tenir sur un CD, un DVD, whatever. Maintenant, t'étais dans le cloud, t'as de la place, t'as de la ressource, etc.
Sauf des petits fous comme toi qui font encore pas mal d'objets collectés, des trucs à base d'Arduino, des ESP, des petits microcontrôleurs. Bon, même si les petits microcontrôleurs de maintenant ont la puissance d'un PC des années 90, mais quand même.
Ah, moi, je te ferai atterrir un truc sur la Lune avec un ESP32, j'en suis persuadé. Hein. Tu vois, là, récemment, je suis en train de travailler sur un projet que j'espère pouvoir présenter au FOSDEM l'année prochaine. Et ça fait partie de ces projets qui sont longs, compliqués, mais quand tu te mets dedans, tu dis « Oh, ça va être facile, dans le week-end, j'ai fini le projet. » Et je sais pas si vous connaissez Noster. Non. Le protocole Noster, non, ça vous parle pas.
Noster.
C'est un acronyme parce qu'on adore les acronymes. C'est pour Note and Other Stuff over Relay. L'idée, en gros, c'est de pouvoir décentraliser de l'information et que ça soit moi qui soit toujours propriétaire de cette information.
Oh,
attends,
tu viens de trouver la page. Je vais les mettre comme lien aussi parce que c'est sympa. Raconter.
L'idée est la suivante. Je vais prendre deux sociétés totalement inconnues pour illustrer le propos. On va prendre une société qu'on va appeler par exemple Twitter, qui n'existe pas, sur lequel moi j'ai été un très grand utilisateur à un moment.
Oui.
ça change peut-être un jour de direction et je ne me retrouverai pas dans la, dans la direction. Et cette société n'existe plus et elle changera peut-être de nom. Et j'aimerais peut-être partir chez ailleurs. Par exemple, une société de ciel bleu. Une autre société qui n'existe pas.
Toute ressemblance avec la réalité, c'est que la pure coïncidence.
Exactement. Sauf que le problème, moi, les données que j'ai mis chez le Piu Piu, ben, elles appartiennent au Piu Piu. Et quand moi, je veux partir chez Ciel Bleu, ben, je ne peux pas partir chez Ciel Bleu, parce que c'est toujours Piu Piu qui a mes données. On est d'accord avec l'idée?
Oui. Mm-hmm.
Maintenant, imaginons que j'ai plein de relais et que à tout le monde, quand j'envoie mon message sous la forme d'un tweet ou autre, puisque c'est « not and other stuff », donc dans « other stuff », ça peut être « ce que tu veux », j'en parlerai un peu plus tard. Et l'idée, c'est de se dire, à partir de là, ben, en fait, je vais signer le bordel comme je le signerais avec une transaction blockchain. Je caricature le trait, c'est pour illustrer. C'est-à-dire que maintenant, je deviens propriétaire de ma donnée et c'est moi qui vais juste donner la clé publique à qui de droit pour y afficher. C'est-à-dire que quand je veux que mes données s'affichent sur Piu Piu, je lui donne ma clé publique, il me reconnaît, je suis identifié, du coup, mon contenu devient accessible sur cette plateforme pour ces gens-là. Si je ne me retrouve plus chez Piu Piu et que je décide de partir chez Ciel Bleu, j'ai la possibilité du coup de refermer mon compte, enlever ma clé que je leur ai donnée, redonner une autre clé à Ciel Bleu et je me retrouve et je déplace tout mon contenu qui m'appartient ailleurs.
Et il est où ton contenu physiquement alors ?
Il est dans tous les relais comme dans la blockchain, c'est-à-dire qu'il est partout, de façon décentralisée, dans plein de relais. Mais... Et des relais que n'importe qui peut monter et construire.
Et là, j'ai lu mon avocat de diable, ça marche très bien à petite échelle, tant qu'il y a 4 geeks bien intentionnés qui l'utilisent. Au moment où ça, si ça commençait à avoir un vrai succès, là, la limite serait avoir les contenus des millions de personnes distribués dans tous ces relais-là.
On commence à parler d'hyperstructure après et ça devient un autre sujet. Je suis d'accord avec toi. Mais l'avantage de Noster et des relais, c'est que ça vient relativement assez léger et assez rapide. Le protocole, il a été développé par des anciens de chez Twitter en plus. Donc, les mecs sont vraiment en train de faire grossir les choses. Et ça commence à être de plus en plus pris par énormément de communautés transverses, des gens, des amoureux de la liberté privée comme moi, mais c'est également utilisé parce que le protocole est super large chez Noster. Vous avez ce qu'on appelle des NIP, et vous avez par exemple du NIP 70 qui permet de faire de la négentropie, ce qui permet de synchroniser les relais les uns avec les autres sans perdre de la donnée. Tu as le NIP 35 qui permet de faire du relais torrent et de l'échange d'informations en pair à pair comme ça. Et je pense au projet Utopia qui prend cette idée-là justement pour la mettre au goût du jour sur le protocole Noster et qui permet comme ça de décentraliser les choses. Et en fait, c'est un truc qui est extraordinaire parce que je trouve que ça permet vraiment de reprendre un contrôle sur notre contenu et la façon dont on donne de la data sur Internet. C'est-à-dire que je la donne plus à une plateforme. C'est moi qui choisis de la diffuser, c'est moi qui choisis qui y a accès.
Et question par rapport à des choses comme les AT protocoles derrière Blue Sky qui est censé aussi être ouvert et que au moins de ce que tu as dit, ça me ressemble comme un truc semblable.
Eh bien, je ne connais pas assez l'autre protocole pour les comparer, je t'avouerai.
Ok. On va y aller sans lien vers les AT Proto, parce que moi, j'avais un peu joué avec les AT Proto, que ça te permet aussi d'avoir tes serveurs. La différence, c'est plutôt que les relais, tu as des serveurs que tu peux installer toi, te mettre dans les clouds, dans lesquels tu as ton contenu. Et là, c'est les plateformes qui viennent choper ton contenu dans le serveur d'identité. C'est une approche un peu différente, mais peut-être j'ai dit ça simplement dans les 2 minutes qu'on a discuté, ça me semble plus escalable, mais je suis preneur si quand tu as un moment tu jettes un œil, je vais regarder Noster de mon côté. Ça serait sympa qu'à un moment donné on en parle un peu plus. J'aime bien toute cette idée de comment on revient à des plateformes plus décentralisées carrément.
J'aime beaucoup l'idée de la décentralisation, même si j'ai toujours peur qu'il y ait un côté de féodalisation qui se crée. C'est des communautés qui ne restent qu'entre eux.
C'était mon problème avec Mastodon, tu vois.
C'est le problème que voilà, on a avec certaines choses. Mais voilà, cette idée, si tu veux, cette idée d'échange de données sécurisées, etc., ça me plaît bien. Et je trouvais l'idée assez intéressante. Mais il y a aussi une autre technologie que j'aime bien dans l'idée de la décentralisation, qui est l'aura, et principalement au travers de tout ce qui est réseau mesh, mesh tastique, mesh core, pour ceux qui connaissent. Et je me suis dit, ce serait goddamn des bien si les deux, on les smashait ensemble et qu'on faisait, tu vois, une sorte de mini agora, tu vois, je pense à des événements, mais c'est valable pour plein de raisons, plein de systèmes de secours.
Un agora local dans une conf technique dans laquelle il y a plein de chances qui se passent sur les réseaux mesh local, un truc éphémère pendant la durée de la conf.
Par exemple, ce genre d'idée. Ça peut être appliqué dans des systèmes de secours quand t'as plus aucun système GPRS qui marche, ou les gens avec simplement des modules connectables en Wi-Fi arrivent à se reconnecter à une smart grid. Enfin, tout ça, ça a des portées et des intérêts. Enfin, j'ai la chance de bosser à l'international et malheureusement de voir que le monde se fragmente. Et il se fragmente de plus en plus. L'Internet qu'on a connu dans les années 90, désolé d'être un vieux con, c'était vraiment l'Internet des hippies. Enfin, on était tous sur le même réseau, on naviguait sur des mers inconnues, mais on était tous ensemble. Maintenant, tu as trois ou quatre Internets différents. Je n'ai pas le même Internet quand je suis aux États-Unis, quand je suis en Amérique du Sud, quand je suis en Afrique, quand je suis en Asie. Bref, le monde fait que maintenant, notre Internet, il est plus donné tel qu'on le garde. Et on n'est pas à l'abri, il faut être honnête, que notre capacité d'accéder à Internet soit toujours maintenue ou maintenable.
Oui, ou qu'Internet soit un réseau unique. Il y a beaucoup de monde qui parle déjà de Splinternet, mais de facto... Le concept de Splinternet, c'est que l'Internet que tu vois, ce n'est pas l'Internet qu'on voit en Chine, mais ce n'est même pas l'Internet qu'on voit dans plein d'autres pays. Les filtres ne sont pas les mêmes. Et donc aujourd'hui, tu commences dans ces logiques-là, ce n'est pas un futur possible, c'est une réalité dans plein de pays.
Ouais. Et du coup, les réseaux mesh sont quand même pas mal utilisés et on arrive à faire des trucs de fou. Pour vous donner un ordre d'idée, on arrive à faire des communications avec des réseaux mesh de l'équivalent de 370 km de pont à pont, hein, vraiment de paire à paire, c'est-à-dire sans autres nœuds qui sont entre les deux. Il y a énormément de nœuds en Europe, il n'y en a pas beaucoup sur le continent africain par exemple, il y en a pas mal en Asie du Sud-Est, il y en a pas mal aux États-Unis, et ça devient un réseau dans le réseau. Mais maintenant, si on pouvait arriver à utiliser la puissance de Noster, c'est-à-dire arriver à garder ta capacité, à garder ton contrôle over relay de tes données, ça aurait été super intéressant. Donc, bon, du coup, j'ai commencé à bosser sur un sujet, merci Claude d'ailleurs, pour justement arriver à mettre ça en place. Et je suis tombé sur une librairie qui est géniale, même si elle est un peu complexe à prendre en main, qui s'appelle Nosh-Stastic, et qui permet justement de faire déjà le premier lien entre le réseau mesh et des Raspberry Pi pour faire justement ton relais Noster. Et c'est là où justement, pour revenir à ce qu'on discutait à la base d'être un peu frugal sur ta consommation de données, sur ta transmission, etc., il faut savoir que les réseaux mesh, on a le droit qu'à 1% en Europe, on a le droit qu'à 1% de duty cycle d'utilisation. C'est-à-dire qu'on a le droit d'émettre que pendant 36 secondes. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas le droit de overpolluer les ondes radio. On a le droit d'utiliser ces ondes radio pour faire du LoRa. Et l'Europe nous demande de ne pas surpolluer en évitant. Donc, bien évidemment, vous avez la possibilité de flasher le firmware et de outrepasser ces solutions-là. Je sais qu'il y en a qui le font, c'est pas cool, mais bon, voilà, ça se fait. Et l'idée, c'est qu'au travers de ces 36 secondes, Il faut que tu arrives à être capable de faire ce qu'on appelle la négantropie, c'est-à-dire être capable de synchroniser différents relais qui doivent s'envoyer de la donnée de façon la plus compressée possible et être capable de la transmettre et la recevoir le plus rapidement possible, oui. Et ça en moins de 36 secondes par jour.
Mais est-ce que ça, c'est pas une espèce de d'évolution du peer-to-peer?
Ah mais c'est totalement une évolution du peer-to-peer.
Mais là, le passage à l'échelle est carrément impossible.
Et ben c'est pour ça que du coup, le projet, l'idée, c'est de le déployer que sur une zone, c'est-à-dire un festival, une conférence, une zone de machin, pour... mais bien évidemment, le jour où cette technologie, on en aura vraiment besoin et qu'on sera obligé de la faire scaler, c'est que littéralement, vous m'excuserez mes propos, on sera dans la merde.
Mais c'est ma question, parce que quand on me vend, c'est la solution idéale pour un futur où Internet est complètement coupé, balkanisé, ou pour un moment où il y a des gros soucis d'urgence, c'est une techno qui ponctuellement, ça peut être une super aide localement, mais qui ne pourra jamais passer à l'échelle par construction, là.
Exactement. Quand on a commencé à bosser avec Claude sur le sujet, il m'a dit « c'est un super projet, il y a plusieurs années de développement à faire », ce à quoi j'étais pas d'accord avec lui. Et par contre, c'est un produit qui est super niche, qui sera vraiment utile, mais le jour où on en aura vraiment besoin, les gens ne le savent même pas.
Ok.
C'est la réalité. Mais ça montre que si on arrive à développer ce genre de technologie, tu vois, dans plein de cas de figure, ça peut avoir de l'utilité. Tu vois, le continent africain qui est en train de se développer, etc., plutôt que de se développer avec de la 5G, il se développerait avec du LoRa, ils pourront développer mais mille fois plus de choses, que ça soit en tech agraire, en IoT, en tout ça. Enfin, ça nous faciliterait tellement la vie.
En tout cas, ça me laisse plein de liens à aller approfondir. Je vous ai mis des liens à fur et à mesure. Bon, allez, qui chope un autre des sujets qu'on a là?
Bon, moi, je veux bien.
Allez.
J'ai découvert, c'est pas un projet, c'est plus une idée, un concept. C'est quand un LLM il est en train de rechercher des informations, souvent, oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par un RAG. Un RAG, c'est une base de données vectorielle. Et du coup, ce qu'on vient indexer dans la base de données vectorielle, bah, ça va être des termes qui vont être après récupérés en fonction des voisins qu'il y a autour. Donc okay. Si par exemple on parle de chat, bah, on va avoir tous les félins qui vont être récupérés par la recherche.
Oui.
Sauf qu'il y a un petit truc qui existe depuis pas mal d'années maintenant et qui permet justement d'avoir ce concept de voisinage de concept. Ça s'appelle Wikipédia. Dans Wikipédia, oui. Il y a des hyperliens qui permettent de se balader de proche en proche, de concept en concept, jusqu'à arriver à philosophie. Il y a même un théorème qui a été édicté comme quoi on arrive toujours à philosophie quand on passe de lien en lien.
Il y a même un jeu, hein.
Oui.
Tu dois passer d'un mot à un autre, ça c'est sympa.
Ah ouais? Ah, c'est lui, je ne connaissais pas. Je sais.
Wiki, Race, je crois, un truc comme ça. Par exemple, tu pars de, je ne sais pas, Deuxième Guerre mondiale et tu dois arriver à Clever Cloud.
Ok.
Juste en cliquant sur les liens.
Et donc, l'idée de Capardi, donc Capardi, c'est un chercheur d'intelligence artificielle à Stanford, c'est eh ben, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas justement ce concept de wiki pour venir organiser des informations pour que quand le LLM il est en train de rechercher quelque chose, ben, en fait, il ait à la fois le contenu et également la connectivité entre tous les contenus, puisque ben, en fait, dès qu'on a besoin de créer un voisinage, on crée un hyperlien. Et puis, cet hyperlien, il permet de se balader de page en page dans le RAG, qui n'est plus juste un RAG avec des vecteurs, mais carrément un Wikipédia, en fait, qui est consultable par le LLM. Et ça, bah, ça peut se décliner en plein de choses. Parce que, par exemple, quand on est en train de faire du code, le code... c'est des références sur des références sur des références sur des références.
Oui.
Au lieu d'aller faire du grep sur du code, comme aujourd'hui on le fait, l'idée pourrait être de venir créer des hyperliens sur toutes les références qu'il y a dans tous les fichiers de la codebase. Et donc, au lieu d'aller faire un gros grep de la mort pour rechercher le terme dans tous les fichiers et à l'intérieur de ces fichiers, regarder si ce qu'on a greppé, c'est pas juste un commentaire, bah, on pourrait avoir des accès un petit peu plus rapides et donc accélérer la recherche et surtout réduire la consommation de tokens. Parce que c'est ça un peu le nerf de la guerre.
Et moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que tu nous as donné les liens que Carpathy a posté il y a des mois. C'était un petit gist où il mettait ses idées. Et derrière, il y a toute une conversation qui s'est créée avec plein d'implémentations différentes. Ah, bah, moi, je l'ai fait avec Obsidian. Ah, moi, je l'ai fait avec si. Ah, et voici un nouveau produit, Link 0.3.0. Et voilà, les gens sont partis, et ça se fait partie aussi d'un monde merveilleux dans lequel on vit. On voit plein d'implémentations, des schémas d'architecture énormes et très colorés, sans doute fait aussi. Génial, c'est super l'effervescence que ça provoque et toutes les idées qui partent à une vitesse folle. Bon, bah, Wiki LLM. On va voir si ça cristallise en quelque chose.
Peut-être. Ça serait rigolo d'avoir un petit truc qui est directement intégré dans des IDE ou ce genre de conneries. Ça pourrait être rigolo.
Bon, continue avec des projets. Tiens, bah, quitte à t'avoir, Gramen, quitte à t'avoir avec nous, tu m'avais parlé quand on s'est vu à The Box de Herald et je suis allé voir depuis et j'ai trouvé ça plutôt très cool. Donc, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu plus de qu'est-ce que c'est Herald et qu'est-ce que tu essayes de faire avec. Parce qu'en tout cas, ça commence à avoir vraiment de la gueule, si je peux me permettre de dire comme ça.
En plus, ça fait une bonne transition avec le sujet d'avant puisque on parlait du coup de l'IA et de sa surutilisation, etc. Et là, en fait, je commence à me rendre compte que les boîtes commencent à se poser des questions aussi sur la qualité du code, les implémentations, les patterns IA toxiques. Et en me projetant, on va dire, dans un horizon plus ou moins grand de 3-4 ans, je suis en train de commencer justement à avancer sur ces questions. Donc, j'ai lancé il y a à peu près 7 mois une première version d'un outil donc qui s'appelle Herald. C'est un peu l'ange gardien du code. Et l'idée, c'est que les gens puissent mettre... initialement, c'était juste le lien d'un GitHub. Maintenant, il y a plusieurs choses. Il y a une extension VS Code. J'essaie de le faire aussi hors serveur et tout pour analyser le code. Alors, il y a des solutions qui existent déjà, hein, SonarQube, etc., qui sont déjà ultra populaires. Mais moi, j'ai voulu faire un truc qui soit vraiment hors serveur, sans LLM derrière et sans stockage. Donc, vraiment un truc à la fois open source, mais également un produit que n'importe quel débutant puisse utiliser. Parce qu'il y a aussi cette barrière technique que quelqu'un qui débute, il a tout vibe codé son projet, bah peut-être qu'il a envie de savoir qu'est-ce qu'il pourrait améliorer. Est-ce qu'il n'y a pas l'IA qui lui a mis un package en fait qui est obsolète depuis quelques années. Toutes ces choses que tu pourrais demander à LLM, tu pourrais dire vas-y améliore-moi le projet, dis-moi ce qui va pas, qui coûterait énormément de tokens pour analyser une grosse codebase. Et ben justement moi je le propose avec Herald. Donc initialement le projet je l'avais développé un peu comme un petit side project à mon application Async. Je me suis dit, je vais faire un petit outil en plus, voilà. C'était à la base, du coup, en JavaScript avec Express, un truc vraiment basique, juste pour tester. Ensuite, j'ai fait une refonte en Rust, en vibe codant. Et là, il y a 2 semaines, je me suis dit, ah tiens, si je recommençais de zéro, mais cette fois-ci, donc, quand je dis c'est en vibe codé, j'utilise quand même l'IA pour générer les règles. Mais j'ai fait une refonte de zéro en recréant moi-même la structure. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des nouvelles versions, que j'ajoutais des règles et tout, des patterns, en fait, c'est des patterns sémantiques, des trucs du code statique, je me suis rendu compte que bah, déjà, je perdais le contrôle sur mon code et que limite, je devais même utiliser Herald sur ma propre code base pour voir comment améliorer le truc que j'avais fait. Alors, il n'y a rien de mieux qu'un outil qui permet d'améliorer son propre outil. Mais du coup, voilà, c'est le projet sur lequel je développe en ce moment. J'ai refait une refonte de l'interface. Et là, j'ai implémenté hier GitLab et d'autres providers. L'idée, c'est de proposer aussi une solution open source pour les entreprises, parce qu'il y a quand même une transparence à avoir. Aujourd'hui, ce qui est vraiment demandé, c'est si on utilise ce genre d'outil, bah, savoir où ça part. Est-ce que ça part sur des serveurs et tout? Et donc, c'est pour que j'ai voulu faire une refonte pour vraiment maîtriser la code base de zéro. Et cette fois-ci, ça fait plus une analyse link par link, comme il peut y avoir, comme peut faire un linter ou autre. On est vraiment sur une analyse en graphe. Donc c'est comme si ça prenait une photo de chaque fichier, voir qu'est-ce qui est croisé entre eux et tout. Et au-delà de ça, ça permet aussi d'aller vraiment voir sur Internet si, par exemple, il n'y a pas de dépendance obsolète, si ça respecte certains patterns. Et là, la prochaine version, j'aimerais faire en sorte de faire deux choses. Premièrement, qu'on puisse créer ses propres règles. Avec un peu un outil no code où les gens peuvent placer ça. Et deuxièmement, que du coup l'outil soit implémentable dans des solutions qui soient vraiment en CLI, tu vois, un truc où t'es pas besoin de l'interface. En fait, l'interface, c'est vraiment pour les personnes qui débutent ou qui veulent pas se casser la tête à installer 10 000 logiciels, à faire tout un setup et tout. Donc, pour les débutants, ça permet aussi d'avoir une petite review de quoi améliorer pour commencer. Et puis, pour les entreprises, la tonne d'entreprises qui me contactent avec 2000 fichiers générés par ChatGPT et ils me disent « Ah, j'ai fait un projet, je fais quoi avec ça maintenant ?» Eh ben, au moins, ils peuvent avoir quelque chose de beaucoup plus palpable. Alors, il y a des gens qui me disent, bah, en fait, ça sert à rien parce que les entreprises, ils s'en foutent un peu de la qualité du code tant qu'ils ont quelque chose qui marche. Mais plus on avance dans le temps, plus je me dis que ma Herald a du sens parce que on commence à voir qu'il y a des vulnérabilités, des patterns qui ne sont pas respectés. Et là, en fait, le legacy par rapport à ça, il va être violent dans quelques années, même quelques mois, tu vois. En fait, on évolue tellement vite dans sa code base que tu vois, même en deux semaines, déjà, si on commence à perdre le contrôle de son propre code, si pour changer une couleur, tu sais même pas où c'est dans ton app mobile, c'est que vraiment, on va trop vite. Et c'est pour ça voilà, que je commence à vraiment focaliser à 200% sur ce genre de solution, en écoutant bien sûr ce que les gens proposent. Pour ça, je fais un peu de live aussi sur Twitch où je développe la solution, me dire « Ah, vous avez des idées de règles. Ah, ça, c'est mal fait. Ah, pense à ça, etc. »
Et si je peux me permettre un truc qui est génial.
Désolé, j'ai un peu…
Le site est magnifique.
C'est ça, c'est les côtés graphiques des sites.
Ouais, il est vraiment magnifique.
Ça rentre par les yeux, c'est carrément beau.
Donc, c'est sur herald.codes au pluriel. Et initialement, c'était juste un outil sur Async. Là, je commence à faire un petit branding, tu vois, autour de petits anges. Tu vois, à la Synconf, il va y avoir des petits stickers avec différents designs et tout. Donc, je me dis, OK, aujourd'hui, avoir un outil tech, c'est important, mais aussi, il faut avoir une histoire, un branding, quelque chose qui touche les gens aussi, une histoire par rapport à ça. Et ouais, du coup, j'ai refait le site. Alors, le site a été, enfin, le front a été vibe codé entièrement. Par contre, tout ce qui est design, image, je l'ai fait faire par des artistes de zéro pour aussi avoir quelque chose d'unique.
Sérieux, Yannick, mets un de tes dépôts, lance l'analyse parce que l'outil, quand il commence, les côtés front, les couleurs, les graphes, tout, même pendant l'analyse, c'est simplement un des trucs les plus jolis que j'ai vu depuis longtemps.
Pour ceux qui n'ont pas l'image, les anges, c'est pas les anges jolis joufflus, c'est les anges bibliques terrifiants qui ont des apparences démoniaques, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Voilà, c'est celle-là. Ah, en plus, il y a fait même des stickers. J'étais piqué à la Synconf.
Mais oui, effectivement, c'est les anges un peu bibliques, mais il y avait un peu cet esprit de, tu vois, l'ange qui, il est un peu en train de regarder, il a un peu une supervision, il sait ce qui est bon, il y a un peu cette idée-là qui rentre en compte. J'ai voulu un peu dégager de l'interface tout ce qui pouvait s'apparenter à quelque chose de religieux, mais plus voir ça comme on va sacraliser le bon code, en fait. Et donc, même moi, dans la création de cet outil, j'essaye de plus en plus de me détacher de l'IA sur ça. Alors forcément, je vais aller plus vite quand je vais générer des règles, mais au moins ça permet d'avoir un outil qui va et peut être utile en tout cas pour n'importe qui, aussi bien les pros que les particuliers, quoi.
Bon bah. Écoute, d'ailleurs, j'ai une petite question sur les constats. Il y a des magnifiques proses. Comment il fait pour générer justement ces proses par rapport à aux différents vraies erreurs? Parce que là, par exemple, il y avait sur le site comme quoi il y avait une clé d'API qui était là depuis 48 jours dans le code.
Et du alors coup, c'est, ça. Alors, il y a des trucs de la landing page qui sont vraiment purement, on va dire, landing pour l'instant. On est sur, pour l'instant, des placeholders où ça va remplacer, pour l'instant, juste les mots.
OK.
Donc oui, ça, quand tu regardes le code, il y a certaines parties qui semblent très statiques. Mais finalement, je me suis dit, ça sert à rien juste de balancer une erreur à la gueule de la personne, leur dire vas-y, t'as une erreur là, mais aussi d'avoir peut-être une mise en forme. Alors c'est vrai que quand tu vas sur la page comment ça marche et que tu vois ces petites proses et tout, ça fait très RP dans le fonctionnement, et du coup je me suis dit c'est pas forcément très digestif pour les personnes qui vont lire, s'ils doivent interpréter le fait que enfin comprendre la phrase, comment elle est tournée et tout. Donc c'est pour ça que j'ai laissé ça pour l'instant purement pour la forme. Mais dans la pratique, quand tu lances une analyse sur démo, c'est écrit de façon beaucoup plus, on va dire, tech.
Bon, bah, en tout cas, sympa, outil très, très sympa à regarder. Et qu'est-ce qu'on a comme autre sujet? Tiens, Erwan, tu m'avais dit quelque chose autour de Firefox et enfin la USB API.
Oui, enfin. Enfin, je ne sais plus de quand date le commit qui a été fait.
L'USB API, ça date de vers 2016. J'ai fait déjà des démos sur Chrome et j'étais déjà frustré parce que je ne pouvais pas les faire. Je me souviens d'avoir fait des démos en conf en 2016, 2017 de la USB API et de la Bluetooth API. Donc oui, enfin.
C'est un truc, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris pourquoi ça a mis autant de temps. Il y a sûrement des raisons et des explications. Ça fait partie un peu des choses qui m'ennuient dans l'open source. C'est que des fois, il y a des choses pour toi, c'est d'une évidence. Et les gars, ils ont juste à faire accept the public release, mais ils le font pas. Mais maintenant, c'est là. C'est très bien parce que ça me fait une raison de moins d'utiliser Chromium, parce que je l'utilise maintenant plus que pour les massifs. Voilà, c'est officiel. Mais c'est surtout que c'était vachement pratique. Dès que tu avais besoin de flasher un ESP, 32, dès que tu as besoin de flasher un Raspberry Pi, dès que tu as besoin de faire un truc rapide où tu as tout sur le navigateur, que ça soit même des clés FIDO ou whatever, bah, tu fais ça avec le même navigateur dont tu as l'habitude. Ça marche bien, tu peux avoir un debug serial direct. Enfin, moi, je faisais pas mal de petits drones à l'époque, open source, MultiWi et compagnie. Enfin, tout le logiciel de configuration se faisait au travers du navigateur web, quoi. Et là, tu gagnes quand même un temps de fou parce que maintenant, tu l'as dans ton téléphone aussi, Firefox. Donc, du coup, tu peux te brancher directement en USB sur ton drone avec le téléphone direct. Enfin, c'est vraiment, vraiment un bon bonheur.
Sur les Firefox, les téléphones, ça, il n'y avait pas lu ces détails. Là, c'est super intéressant en plus.
Bah, c'est là où c'est vachement pratique parce que souvent t'es en train de débugger. Enfin, moi je sais pas vous, mais moi quand je débug des ESP32, je suis généralement à quatre pattes sous un meuble ou en train de faire le con dans des situations pas glop. Alors, pousser le laptop dans le nid de poussière, je suis moyennement fan. Alors que bon, le téléphone, tu vois, t'as de la place, tu passes le cap, tu le flashes et ta vie est belle. Il me semble que normalement ça a été accepté dans le trunk de la version mobile, hein, parce que ça a été, c'était le trunk global de Firefox. Donc normalement ça touche toutes les versions de Linux, Mac, Android. C'est une problème. Peut-être iPhone va peut-être être plus chiant. Parce que je sais que Apple, pour des raisons évidentes de sécurité, a décidé d'embêter ses utilisateurs. Désolé, je ne suis pas un grand fan. Je sais qu'il y en a, ils sont des fans absolus d'Apple, etc. Moi, me vanter un iPhone à 1600 balles en me disant, vous avez vu ça, c'est ça qui va protéger votre vie privée, j'achète pas, j'y crois pas. Donnez-moi un Android, je le flash, je le root, je mets un Graphene OS. Et là, ouais, j'ai un contrôle sur ma vie privée.
Et encore, Android va faire péter la possibilité de mettre du truc non signé. Donc,
Ouais, bonne chance à eux.
Et non, ils vont faire péter la possibilité de le faire facilement. Après, oui, ils ne sont pas bêtes, ils savent que... Donc, il y aura des façons de le faire, mais... Et ils vont faire péter la possibilité que Monsieur Tout le Monde puisse le faire aussi simplement qu'aujourd'hui. C'est...
Et Juan, tu parlais d'open source. C'est quoi ta, si je peux rebondir là-dessus, c'est quoi ta vision un peu de l'open source aujourd'hui?
Plus que c'était. C'est comme le rap, c'était mieux avant. Oh, elle était facile, ça. Là, je me mets tout le monde à dos. C'était facile. Non, blague à part. Moi, je dois beaucoup à l'open source parce que j'ai appris à coder, j'ai appris à développer, j'ai appris à pirater grâce à l'open source. Moi, je suis pas développeur, je suis pas ingénieur informaticien. Moi, je suis un petit scientifique, tu vois, qui aimait faire n'importe quoi dans un laboratoire. C'est ça ma formation initiale. Et l'informatique, c'était plus du kiff, tu vois, du bonheur. Et j'ai appris grâce à l'open source, j'ai appris à reverse engineer des programmes. Enfin, tu vois, il y avait une communauté. Tu vois, au-delà de l'open source, il y avait une communauté et cette envie, tu vois, de partager des choses. Et de plus en plus, en fait, maintenant, je vois plusieurs choses qui me gênent. Et bien, alors, c'est personnel, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, bien évidemment, mais la première chose, c'est qu'il y a le camp de ceux qui sont d'accord avec l'IA et ceux qui ne sont pas d'accord avec l'IA. Et tu vois, moi, je me fais refoul des merge requests. Il faut savoir que je ne publie jamais en mon nom, on me le reproche assez souvent, mais à chaque fois, je me fais chier à créer des comptes dédiés à ça parce que j'aime pas mettre mon nom partout, dans le respect de ma vie privée. Bref, je pousse mon code où je veux. Et il y a des gens qui refusent du code qui est bon, qui est légitime, juste parce qu'ils voient « co-authored by Claude ». Et ça, tu vois, déjà, ça, rien que ça, ça me casse les couilles. Enfin, désolé de le dire poliment, mais je trouve ça stupide.
Code, il est bon. Mis récemment sur GitHub, c'est ça? Ou sur toutes les plateformes?
Ah non, mais sur toutes les plateformes. Mais même il y a quelques mois, sur un truc de...
Ça a été enlevé, ça, ou pas? Parce que j'avais vu, justement... Parce que moi, mes étudiants, justement, je regardais leur projet Git quand je faisais leur review, et je voyais ça, justement, il y a encore quelques mois. Alors, je sais pas si c'est...
Tu peux le demander de l'enlever, je crois, by default, mais par défaut, il co-auteur tout maintenant.
Oui, c'est dans les paramètres, je crois, un truc comme ça.
Donc, bref, moi, je comprends pas le... Enfin, voilà, ça, j'ai du mal à le comprendre. Et l'autre chose aussi qui m'inquiète beaucoup sur la communauté open source, c'est qu'avant, elle était animée par des passionnés, des gens qui se sont défoncés sur des projets. Et ces projets-là, ils ne vont plus être maintenus, ils ne vont pas être suivis, ça ne va plus être maintenu qu'à grands coups d'IA, malheureusement. Et là, c'est la boîte de Pandore qui va s'ouvrir. On l'a vu avec la faille SSH il y a quelques années avec l'algorithme de compression XZ. Voilà, on arrive, tu vois, devant un truc où les communautés, où on était dans de l'entraide et justement, on construisait des projets et tout, se transforment maintenant en des îlots de solitude où chacun fait ses trucs un peu dans son coin. Je ne cherche plus s'il existe quelque chose et je me rappuie dessus, je vais réinventer la roue et je vais refuser tout ce qui va venir de l'extérieur parce que ça ne vient pas de moi. Tu vois, c'est un peu ce ressenti que j'ai de la communauté open source ces derniers temps et que je trouve profondément dommage.
Et en même temps, il y a des mal à lève la main. Quand il se retrouve en tant que maintainer soumergé littéralement des pull requests dans des projets qui avaient une ou deux pull requests par mois et se retrouvent avec 20 par jour, les replis sur soi, et ils savent qu'il y a aussi des pull requests malveillants, qu'il y a des gens qui adorent empoisonner les bibliothèques et tout, c'est difficile de les blâmer. À des maintainers qui, depuis des années, se sont battus tout seuls pour faire vivre leurs petits projets, leurs petites librairies, et qui se retrouvent maintenant dans ces conditions-là.
Ouais, et des petites librairies qui deviennent essentielles. C'est surtout ça le fond du sujet. C'est que les trois quarts de ce que vous utilisez dans votre iPhone à 1600 balles, dans votre Android à 1600 balles, c'est de l'open source à je ne sais pas combien de pourcents. L'ordinateur que vous utilisez, enfin, tu vois ce que je veux dire? L'open source, c'est à mon sens un bien des communs, tu vois, un bien de l'humanité au même titre qu'est Mozart, Beethoven ou whatever. Et en fait, on gagnerait, à mon sens, à ce que, tu vois, tous les codes sources soient ouverts, tu vois, histoire que vraiment, tu vois, on puisse être transparent et qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de porte dérobée, que... Enfin, moi, j'ai confiance en l'open source parce que je sais que je ne peux pas me faire avoir parce que je peux auditer le code.
C'est pour ça que je te posais la question, parce que moi, c'est par rapport à Herald, tu vois, quand j'avais pas mis le code source sur GitHub sur la première version, j'étais vraiment dans ces questionnements-là. Des gens me disent, ah oui, mais moi, j'utilise pas, en fait, je sais pas ce que tu vas faire derrière des données. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus sur juste source plutôt que open. C'est juste, on va montrer pour être transparent, mais derrière, effectivement, l'aspect contribution, elle est plus autant qu'avant, à part balancer des issues. C'est, il y a moins cet aspect, on va contribuer, effectivement, si derrière, après, ça commence à partir, en vibe coding sur un projet, en fait, où tu n'as même plus...
Il y a quand même des exceptions. Ces derniers temps, j'ai d'abord soumis pas mal d'issues et ensuite contribué à une bibliothèque que je trouve très, très sympa, s'appelle SmallVM. Donc, ça permet de créer des machines virtuelles ultra légères. Et là, la communauté, je pense que ça faisait longtemps que je ne voyais pas cette émulsion-là, parce qu'il y a... Oui, plein d'issues tous les jours, plein de pull requests, mais le maintainer arrive à suivre, à encourager que les gens ne fassent pas que des issues, mais ils s'envoient. Et du coup, le projet, il avance à des vitesses vraiment énormes. Et ça prouve que ça peut le faire. Ils ont réussi à trouver une façon, mais peut-être parce que c'est un projet récent qui est démarré dans cette nouvelle ère. C'est peut-être le projet... où les maintainers, bah, ils sont trimés avant et maintenant ces changements, c'est trop compliqué. Mais je vous laisse l'exemple de SmallVM dans les liens. En tout cas, j'ai fait pas mal d'issues, j'ai fait ma première pull request cette semaine, c'était accepté hyper rapidement, c'était émergé, une nouvelle release que la met. Et je suis vraiment épaté de la dynamique pure open source qu'il y a derrière. Donc je pense que ça peut se faire. C'est un exemple, c'est anecdotique. Mais je pense qu'il doit avoir plein d'autres et que ça peut se faire. Ça m'était aussi arrivé avec N8N et pourtant c'est un gros projet et maintenant ils sont littéralement inondés de pull requests avec son utilisation par la plupart de l'LM comme un moteur d'orchestration. Et derrière bah aussi, j'ai soumis un issue, vu qu'il n'y était pas pris, j'ai fait un pull request et je l'ai détaillé. C'était plus lent, mais à la fin c'était accepté et émergé. Donc, je pense, je ose rêver, suis un doux rêveur, vous me connaissez, que c'est qu'une phase transitoire un peu dure à passer et que l'open source peut rebondir derrière.
Ouais, mais le problème là, c'est que c'est pas vraiment IA ou pas IA. Le problème, c'est le flou. Là, c'est un projet qui est très, très pointu. Small Machine, bah, ça va toucher une très, très petite partie des devs. Quand tu commences à jouer avec des projets qui sont des orchestrateurs d'agents, ce genre de trucs, tout le monde veut contribuer là-dedans parce que tout le monde en a besoin. Et donc, on se retrouve avec 2500 issues à trier. Là, il y en a une trentaine apparemment sur SmallVM.
C'est gérable
humainement. Comment tu fais pour autoriser le trafic légitime et refuser le trafic illégitime? Comment tu fais un WAF d'issue pour empêcher que les IA ne créent 550 issues sur le même problème? Parce que les 550 IA qui ont été lancées dessus, vu qu'elles ont le même modèle de langage, elles ont spot la même erreur sur la même codebase. Mais comme tout le monde travaille en asynchrone, comment tu fais pour réconcilier tout le monde et faire que...
À coup de IA aussi dans ces cas, je ne sais pas, j'imagine qu'il peut y avoir un filtrage à l'entrée de l'endpoint issue de
GitHub
avec un LLM qui va te dire, tiens, ce que tu me dis, c'est peut-être un dupliqué de 126, 127, 128 et 129. Donc,
Totalement. Tu fais même une CI/CD dès qu'une issue est ouverte, tu spawns un runner qui exécute un cloud code, hop, il te donne la réponse, il merge l'issue et puis voilà. Enfin, je pense qu'en fait, le flow qui est généré par l'IA, il n'y a que l'IA qui peut y répondre dans la réalité. Tu vois, enfin, il faut combattre le feu par le feu au bout d'un moment. Hein. Sinon, ça va faire, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène dans Bruce Tout-Puissant où l'autre, il essaye d'organiser les prières sous forme de post-it, tu sais, à un moment, et il se retrouve recouvert de post-it et il dit, bon, au final, je vais mettre ça dans Thunderbird, ça ira plus vite, tu vois. mais tu vois, c'était un peu le même truc, tu vois. Au bout d'un moment, bah, laisser faire l'IA. Après, il y a un autre truc, et là, j'avoue que ça m'a fait crier fort il n'y a pas très longtemps sur l'open source, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment énervé. C'est à des projets qui sont très bons. Mais vraiment, qui sont très bons, qui sont cool, que tu utilises depuis des années. Et là, sans aucune raison, le mec décide de te sortir la version 2.6, qui n'existe plus. Tout son code, il est effacé. Maintenant, c'est une version payante et il faut que tu ailles l'acheter. Et ça, tu vois, qu'on en fasse une version mercantile, que tu dis, bon, bah, ça y est, mon produit a atteint, enfin, mon code a atteint le niveau d'un produit et je peux le marketer, etc. Et je décide de le marketer pour les business, les entreprises. Pas de souci. Mais va pas jusqu'à dégager toute ta code base de GitHub, tu vois, en effacer les main branches, etc. Il y a heureusement un con quelque part dans l'univers qui a décidé de forquer le projet, heureusement. Et je l'ai retrouvé en allant naviguer une heure sur GitHub, aller chercher les projets forqués qui étaient à jour et qui contenaient les derniers patchs de sécurité. Et ça, tu vois, je trouve ça dommage. Je veux dire, tu as fait un code, tu le fais évoluer. Oui, tu vas faire une version qui est payante. Celle-là, tu décides de la garder en shareware. Je ne comprends pas, mais mettons, fais-le, mais laisse ton code originel. Laisse d'autres personnes partir et construire dessus. C'est, tu vois, ça je comprends pas. Tu vois, oui. Et le projet en question, et en plus, c'est excellent. Si vous ne le connaissez pas, c'est Pico Fido 2. Et en fait, comme je l'expliquais, à chaque fois, moi, je me crée des comptes pour faire des trucs sur Internet pour protéger ma vie privée, que j'ai pas envie d'expliquer pourquoi cet exploit privé peut permettre d'exécuter du code non signé sur des machines. Voilà, j'ai pas envie d'expliquer ce genre de choses. Du coup, je me fais des clés d'authentification, mais je vais pas acheter une clé YubiKey à 50 bullish à chaque fois que je fais le compte sur Internet. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai des petits Raspberry Pi qui coûtent 5 euros. Vous savez, c'est quoi, les 26-40
Pico, ouais.
Les tout petits,
les
là.
Les pailles,
c'est non, c'est les Pico, c'est des Pico, Raspberry Pico RP2340. C'est l'équivalent d'un ESP32 en termes de puissance, tu vois, entre guillemets.
Ah, 3x40, là.
Ouais, 2340, ouais. Il coûte quoi? Il coûte 5 balles.
3,40 €.
Ah oui. Voilà. J'ai vu à 4 euros.
Disponible à la FNAC.
Moins bon que les tiennes.
Moi, il est plus cher en livraison.
Ouais, c'est pour ça. Tu demandes quand tu fais des commandes à ton copain Ali qui est en Chine et qui est rapide. Tu dis, il y a des bundles, t'en achètes 50, tu vois, pour 50 balles, tu vois, et t'es bien. Et l'avantage que ça, c'est que c'est pas qu'une clé YubiKey, c'est aussi une smart key JPG. Donc, du coup, tu as tout en une clé pour t'authentifier sur GitHub, mais pour signer ton code, pour te connecter en SSH parce que ça contient ta clé SSH. Donc, si tu veux, j'ai par projet une clé à la con qui me sert à m'authentifier. Donc, du coup, ce projet était super cool parce que, bah, du coup, pour éviter d'avoir tout qui traînerait dans un trousseau de mots de passe, qui fait qu'après, j'ai mon Bitwarden qui est plein, mais genre, qui est plein et quand il recherche, il met du temps. Et bah du coup j'ai des petites clés et ces petites clés je les connecte, je fais un coup de webhot et puis ma vie est belle. Et ce projet-là, Pico Fido, je l'ai utilisé, j'ai encore il y a 2 mois en version 2.4. Et là récemment ils ont sorti la version 2.6 et le repo Git a été mais genre purgé. Et après on dit ouais mais si tu veux il faut que tu payes 20 balles.
Ouais, tu perds l'essence même de l'outil. Mais regarde, imagine, moi je te pose la question parce que je suis vraiment dans ce cas de figure. Du coup, moi j'ai envie d'avoir de la transparence sur mon outil, mais j'ai quand même envie de pouvoir, tu vois, proposer un petit abonnement à 5 balles pour les gens, pour quand même monétiser le temps que j'ai passé à investir sur le projet. À quel point, justement, tu laisses une porte ouverte par rapport à l'open source pour pas que les gens juste volent ton projet et se barrent? Ou alors, est-ce que... Enfin, parce qu'il y a 10 000 licences, pour moi, c'est compliqué de s'y retrouver aujourd'hui.
Et c'est là que j'aimais les... On va faire les cliffhangers parce que j'ai très envie d'écouter la réponse d'Erwan et j'ai très envie, mais on arrive à la fin du premier épisode. Donc, on laisse les cliffhangers, on va partir sur ça pour le deuxième, mais avant... On a besoin d'une musique de fan. Donc, Graven, qu'est-ce que tu